Le journal Loïc Barrière. Le procès ce lundi de l'attentat de Nice, commis le 14 juillet 2016. Les audiences se tiendront à Paris. Entretien avec Guillaume Denoy de Saint-Mar, président de la Fédération internationale des associations de victimes du terrorisme. 5 blessés dans une attaque contre un bus israélien. Cela s'est passé en Cisjordanie occupée. En Somalie, 19 civils ont été assassinés par les Chebabs. 190 migrants qui tentaient de traverser la Manche, secourus par les autorités françaises ce week-end. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Maral Kiampour pour le roman « Aux portes du paradis » extrait dans ce journal. 5 personnes blessées dans une attaque armée contre un autobus israélien dans le nord de la Cisjordanie occupée. 2 personnes ont été blessées par des tirs, 3 autres par des éclats de verre. Après cette attaque, plusieurs suspects palestiniens ont été arrêtés par l'armée israélienne. Dans la bande de Gaza, le Hamas annonce l'exécution de 5 Palestiniens. 2 l'ont été pour collaboration avec Israël. L'un d'eux avait fourni des informations sur des membres de la résistance, leur lieu de résidence et sur l'emplacement de sites de fabrication et de lancement de roquettes. En Somalie, au moins 19 civils tués dans une attaque des Chebabs, un groupe djihadiste présent dans la région. L'attaque a visé les passagers d'au moins 8 minibus et camions. Les assaillants ont également enlevé plusieurs personnes. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvrira ce lundi à Paris, 6 ans après le drame du 14 juillet 2016. Le procès des 8 accusés se tiendra dans l'enceinte du palais de justice de Paris. L'attaque avec un camion de 19 tonnes avait fait 86 morts et des centaines de blessés. Un procès d'une envergure exceptionnelle. Les audiences seront retransmises au palais des congrès de Nice. Entretien avec Guillaume Denoy de Saint-Mar, fondateur de l'Association française des victimes du terrorisme et président de la Fédération internationale des associations de victimes du terrorisme.
Ce procès va être particulier parce que malheureusement, la principale personne responsable de cet attentat est décédée. Hein, et donc, ça donne un aspect un peu moins intéressant sur le plan des accusés concernant cet attentat, mais pour les familles, il y a énormément de questions qui se posent sur l'enchaînement des faits, sur ce qui s'est passé, sur aussi des interrogations sur parce qu'il y a une polémique sur la présence ou pas des policiers, etc. Et je crois que ce procès va être l'occasion de reconstituer tout ce qui s'est passé exactement, qu'une vérité juridique soit faite. Ça permettra, bien sûr, parce que c'est l'objet du procès, de juger un certain nombre de personnes, mais on sait que leur implication est légère. En tout cas, ce ne sont pas les principaux protagonistes. Mais ça va permettre aussi aux victimes de pouvoir parler. On a vu à quel point le procès... pour les attentats de Paris et de Saint-Denis, à libérer la parole des victimes, parole que tout le monde a trouvée très sensée, sans haine. Et je crois que ce moment-là, ce moment du procès, va être aussi celui des parties civiles, même si ce n'est pas l'objet principal, bien sûr.
Le procès qui peut être un moment douloureux pour les victimes, mais vous le soulignez, hein, qui participe à leur reconstruction, c'est très important.
Alors oui, le procès est rare dans les affaires de terrorisme, et quand on peut avoir un procès, il faut absolument que les parties civiles, les victimes, y assistent autant qu'elles le peuvent. Et c'est un moment qui permet d'accompagner le chemin vers la résilience. C'est pas l'unique élément, hein, mais c'est un élément important. Il y a un avant et un après le procès, quand il y a un procès. Et ce moment-là va forcément être un moment douloureux, parce qu'on ressort tous les souvenirs, on revit ce qu'on a vécu, mais on le revit avec la distance du temps. C'est-à-dire que entre-temps, il y a tout un travail qui a été fait, tout un travail de compréhension, un travail sur soi-même. Et si ce moment est douloureux, il s'est permis aussi souvent de franchir un cap, de mieux être, et parce que justement on a lutté contre le déni et on a lutté contre les volontés éventuellement de vengeance, puisque à l'opposé de la vengeance, il y a la justice. Et quand la justice passe, ça, c'est toujours apaisant.
Vous avez bien entendu rencontré de nombreuses victimes de terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous faire part des troubles qui persistent plusieurs mois et plusieurs années après l'attentat ?
Alors, il y a des troubles liés aux victimes du terrorisme qui sont souvent ce qu'on appelle le choc post-traumatique, qui est vraiment un traumatisme profond, vicieux, puisqu'il peut même se déclencher de nombreuses années après les faits. Et j'ai plusieurs exemples de ce type-là autour de moi. C'est un trouble anxieux qui est vraiment très dur à traiter, mais qui peut se faire que quand on sort du déni et qu'on arrive à prendre les choses progressivement, en fonction de ses capacités, à appréhender, mettre des mots, MOTS, sur les différents mots MAUX qu'on peut avoir. Et c'est un travail qui est pluridisciplinaire, puisque la justice et le procès vont permettre aussi ce processus. C'est très vicieux parce que c'est quelque chose qui vous surprend dans votre vie de tous les jours. D'un seul coup, il y a un objet, un bruit qui va vous rappeler l'événement et vous êtes tétanisé dans un état second. Et c'est extrêmement désagréable et incapacitant. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre aussi bien pour ceux qui ont été sur place, mais quelquefois aussi des proches peuvent avoir ce type de traumatisme.
Et cela peut être mal compris de la part de l'entourage également.
Alors, comme c'est un phénomène qui est heureusement rare et peu connu, effectivement, le fait que cette personne d'un seul coup se sente pas bien alors qu'il y a eu quelque chose qui pour les autres est complètement anodin est très étrange pour les autres et voire stigmatisant pour la victime. D'où un effort constant de pédagogie, presque d'excuses que doit faire la victime pour dire excusez-moi, mais là je suis pas en capacité d'avancer, etc. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Et c'est toujours difficile pour la victime d'être obligée de se justifier pour ce comportement, je dirais, qui paraît inadéquat pour les autres, mais qui est tout simplement quelque chose qui est inattendu, qui incapacite la personne.
L'un des faits notables de ce procès, l'intégralité du procès pourra être suivie par les parties civiles qui en feront la demande sur une web radio sécurisée. Ces nouvelles technologies, ce sont aussi des éléments importants.
Écoutez, il y a un énorme effort qui a été fait pour que les parties civiles puissent participer et assister au procès le mieux qu'elles peuvent. Et effectivement, cette web radio est un moyen de suivre le procès. Sans être obligé de mettre sa vie en suspens complètement pendant plusieurs mois, parce que le procès est très long. Ça, bien sûr, comme toute chose, a des inconvénients et des avantages. L'avantage, bien sûr, c'est de pouvoir suivre les procès. L'inconvénient, c'est aussi que s'il y a des choses douloureuses que l'on entend, on est seul chez soi. On n'est pas entouré des autres parties civiles. Donc, c'est à prendre avec précaution, mais c'est une avancée énorme. De même que le fait qu'on puisse suivre le procès dans un endroit délocalisé, puisqu'on pourra le suivre depuis Acropolis à Nice, pour les victimes qui vivent dans le sud-est de la France, plutôt que de venir à Paris. Donc toutes ces choses-là concourent à une meilleure justice, à une meilleure implication des victimes, et ça part du fait qu'on a réussi à expliquer à quel point c'est compliqué pour les victimes de suivre tous ces procès. Et donc, merci au ministère de la Justice qui a pris en compte cette difficulté pour les victimes d'assister plusieurs mois d'affilée à un procès fleuve.
Est-ce que vous avez le sentiment que les victimes sont mieux accompagnées aujourd'hui par rapport aux dernières années, aux dernières décennies ?
Alors oui, il y a eu un effort énorme qui a été fait pour accompagner les victimes. Les victimes du terrorisme dans un premier temps, et heureusement ça s'est étendu aussi aux autres victimes. Et ça, c'est tout le travail, la prise de conscience qui a été faite, et notamment le travail de la secrétaire d'État à l'aide aux victimes, Juliette Méadel, et ensuite de la déléguée interministérielle de l'aide aux victimes qui a pris la suite et qui a co-construit vraiment une politique d'aide aux victimes avec les associations de victimes. Et donc ce travail de co-construction a été très utile. J'ai un peu le sentiment qu'on perd un peu, malheureusement, cette culture que nous avons pu mettre en place de co-construction. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très louable et qui fait qu'aujourd'hui, la France est un des pays qui s'occupe le mieux des victimes du terrorisme et des victimes en général dans le monde.
Guillaume Denoît de Saint-Marc, président de la Fédération internationale des associations de victimes du terrorisme, il répondait à François-Xavier de Calonne. Isabelle Rome propose la création de juridictions spécialisées pour juger les violences conjugales. Selon la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ces affaires doivent être jugées d'une manière spécifique. Une mission parlementaire sur ce thème a été annoncée vendredi par la première ministre Elisabeth Borne. Depuis le début de l'année, la Grèce a bloqué l'entrée de plus de 150 000 migrants à ses frontières terrestres et maritimes. C'est ce qu'a déclaré le ministre grec des Migrations. Le contrôle des frontières est une des grandes priorités du gouvernement conservateur élu en 2019. Le sujet sera au centre des prochaines élections en Grèce l'année prochaine. La France a sauvé près de 190 migrants qui tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Ils ont été secourus lors de plusieurs opérations et ramenés vers la France, selon la préfecture maritime. À 19h, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Maral Kiampour pour le roman « Aux portes du paradis » aux éditions Éric Bonnier, un roman qui évoque la guerre entre l'Iran et l'Irak, extrait de cette émission.
C'est venu vraiment de non-dit finalement, d'un questionnement que j'avais depuis l'enfance. Il faut savoir que mon oncle paternel Amir est venu vivre chez nous en 1990, après son engagement en tant que soldat iranien durant le conflit irano-irakien. Il avait des séquelles psychologiques qui dataient de son expérience dans l'armée, et il est venu vivre chez nous pendant 4 ans. C'est vrai que nos parents nous avaient interdit à mon frère et à moi de lui poser des questions sur ce conflit, et lui-même ne voulait jamais en parler. Donc il ne voulait pas en parler. Et c'est vrai que mon frère et moi, nous avions quand même tout un imaginaire, nous étions des enfants, donc nous avions tout un imaginaire romantique, romanesque, sur ce qu'il avait pu faire pendant cette guerre. Et nous avions cette image un peu de guerrier glorieux qu'il n'était pas, puisqu'il était un simple soldat. Et la seule chose finalement qui ancrait effectivement sa participation dans ce conflit et dans le réel, c'était la cicatrice qu'il avait au niveau de la gorge. Donc la balle avait traversé d'un côté, était ressortie de l'autre, sans avoir causé de dégâts. Il avait été laissé pour mort sur le champ de bataille, donc ça c'est la partie qui est véridique du coup dans mon récit. Et c'est l'un de ses amis qui avait été désigné ce jour-là pour faire le tri au niveau du champ de bataille, entre les morts et les vivants, qui a pris un peu plus de temps pour vérifier si lui était bien mort, et qui a du coup vu qu'il respirait encore, même si c'était faiblement, et qu'il a ensuite du coup mis dans la camionnette qui emmenait les vivants et non pas les morts. Donc ça vient vraiment d'un questionnement personnel, et sur des non-dits, effectivement, qui n'ont pas été transmis par mon oncle.
Et donc, ces non-dits de la guerre entre l'Iran et l'Irak ont nourri votre imaginaire aussi quand vous avez commencé à écrire ce roman ?
Oui, tout à fait. Le point de départ, c'était vraiment ce questionnement, et du coup, mon histoire personnelle, mon oncle Amir. Mais il s'est avéré qu'au fur et à mesure que j'écrivais, d'autres personnages se sont finalement imposés et sont peut-être plus, effectivement, les personnages principaux de ce roman que mon oncle Amir.
Alors vous êtes d'origine iranienne, mais vous êtes né en France. Vous vous êtes documenté pour écrire ce roman. Vous avez interrogé des témoins.
J'avais pas le droit d'interroger mon oncle, donc je n'ai pas pu avoir d'expérience directe à ce sujet. Par contre, effectivement, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu concernant ce conflit, et c'est là où j'ai découvert également l'intervention des tribus kurdes dans ce conflit, dont on parle assez peu finalement dans les manuels d'histoire. Et effectivement, j'ai pu apprendre beaucoup de choses entre les relations, notamment les tribus kurdes, du coup, qui ont une influence assez forte durant ce conflit. Et donc l'un des personnages, effectivement, fait partie tout à fait de cette histoire.
Vous montrez la diversité des populations en Iran, ce qu'on ne sait pas toujours en France.
Oui, tout à fait. Alors il faut savoir que l'Iran est un pays qui est grand comme trois fois la France et qui est assez peuplé. Donc effectivement, il y a beaucoup d'ethnies différentes qui cohabitent plutôt pacifiquement d'ailleurs en Iran. Il y avait avant la révolution islamique également une grande communauté juive, il y avait aussi une grande communauté chrétienne. Ça a un petit peu changé effectivement suite à l'arrivée de la révolution islamique. Mais il faut savoir qu'effectivement, de fait de son histoire, du fait de son positionnement aussi qui est un peu au carrefour, il y avait les routes de la soie qui la traversaient, il y a eu toujours cet afflux finalement de communautés différentes qui passaient ou qui restaient. Et effectivement, différentes communautés cohabitent en Iran, mais toutes se sentent vraiment iraniennes.
Et c'est l'information aussi que vous donnez dans ce passage, c'est que toutes avaient un sentiment d'appartenance à l'Iran.
Oui.
Est-ce que la guerre avec l'Irak a renforcé ce sentiment d'appartenance, notamment après la révolution de 1979?
Oui, tout à fait. En fait, l'ayatollah Khomeini aurait dit lui-même de son vivant que la guerre était une aubaine. Aubaine parce qu'il venait d'accéder au pouvoir et que ce conflit contre un ennemi commun permettait effectivement de rassembler toutes ces ethnies et également toutes les mouvances politiques différentes, qu'elles soient laïques, libérales, communistes, etc., autour de cet idéal de combattre l'ennemi extérieur.
Vous le rappelez dans le roman d'ailleurs, la révolution au début n'était pas islamique.
Tout à fait, effectivement. C'est peut-être quelque chose qu'on a un petit peu occulté par la suite, mais effectivement c'était vraiment un mouvement révolutionnaire qui venait vraiment de la rue, des gens, et donc qui étaient tous ces gens? Il y avait des communistes, il y avait des nationalistes, il y avait des libéraux, il y avait également des mollahs, bien sûr, mais il y avait différentes tendances, effectivement, politiques, qui s'étaient réunies pour un rejet unanime du Shah et de l'ingérence extérieure, et le Shah représentait effectivement cette ingérence extérieure, puisqu'il était considéré comme le pantin des États-Unis.
Maral Kianpour, elle publie le roman « Aux portes du paradis » aux éditions Éric Bonnier. Elle est l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient. Ce lundi, le journal est présenté à midi et 17h30 par François-Xavier de Calonne. Excellente soirée à tous.